Bon, alors, déploiement de tests rapides dans quoi? 72 écoles. 72 écoles de la grande région de Montréal, dans des quartiers, justement, où le taux de vaccination est jugé trop peu élevé. Pas assez d'élèves vaccinés. On parle de Montréal-Nord, on parle de Saint-Michel, Parc-Extension, Villeray, Chaumedé également, à Laval. Caroline Couache est microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste à Sainte-Justine. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Bernard.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement, une opération de test rapide dans ces écoles?
Bien, j'ai l'impression que comme de cette façon-là, on va être capable de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école, même quand ils ont peut-être des symptômes de rhume qui pourraient être dus à d'autres virus. Et parce qu'en fait, le but, là, c'est vraiment de leur permettre d'aller à l'école le plus possible sans mettre à risque les autres autour d'eux, sachant qu'un test rapide est capable de trouver une infection à COVID qui a une charge virale plus élevée et donc être capable de les identifier sur place rapidement et de leur laisser aller à l'école s'ils sont négatifs, là, quitte à les répéter par la suite.
Donc, l'idée, Caroline, ce n'est pas de tester tout le monde. C'est de tester ceux qui ressentent des symptômes, leur dire, regarde, gêne-toi pas, là. Sois pas hésitant. Si tu sens que tu commences à avoir mal à la gorge, tu commences à tousser, tu commences à couler du nez, bon, ben garde, dans l'école, à tel endroit, dans tel local, là, va voir la dame, va voir le monsieur, là, puis il va te tester, tu vas voir, ça va prendre. Ça prend combien de temps, Caroline? Ça prend 5 minutes?
Ça prend 10 secondes par narine.
Le résultat du
15
test.
15 minutes. Oui. Mais c'est vraiment comme ça qu'on avait fait l'année dernière, entre autres, dans une école de Montréal-Nord, là, à Calixa-la-Vallée, quand les élèves avaient l'impression d'avoir des symptômes ou ils savaient parfois qu'à la maison, il y avait un cas, mais qu'ils étaient allés à l'école pareil. Ben, à ce moment-là, on pouvait les tester, puis si jamais ils étaient positifs, on les retirait parce que, tu sais, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire le tri entre ce virus-là et tous les autres virus qui, présentement, sont en train de se transmettre un peu partout.
Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est des fermetures de classe ou pire encore, des fermetures d'école. C'est éviter, dans le fond, qu'un cas se transforme en éclosion.
Ça, mais surtout éviter d'être obligé de demander à tout le monde de rester à la maison tout le temps au moindre symptôme. Parce que, contrairement à l'année passée, où la plupart des gens qui avaient des symptômes de virus respiratoire, c'était dû à la COVID, bien, cette année, on le voit déjà, là, on a énormément de RSV, on a déjà commencé à avoir de l'influenza, on a tous les autres virus respiratoires qui sont revenus à la fête.
Qu'est-ce que tu as dit, RSV, pardonne-moi, RSV, c'est quoi?
C'est le virus respiratoire syncytial qui cause des bronchiolites chez les petits bébés, mais qui cause des rhumes chez les plus grands. Okay. C'est que quand on regarde quelqu'un qui a un peu de symptômes, qui peut ressembler à un rhume, on ne sait pas si c'est la COVID ou si c'est autre chose. Et donc, d'avoir ces tests rapides-là nous permet au moins de trouver ceux qui ont une charge virale élevée. Puis habituellement, ceux qui ont des symptômes, si c'est dû à la COVID, on les trouve là, dans, je vous dirais, 8 fois sur 10.
Est-ce que tu, dans ton esprit, Caroline, est-ce que ces tests rapides, c'est aussi une espèce de transition vers le moment où on va pouvoir avoir un vaccin pour les 11 ans et moins?
Oui, en autant que les enfants se fassent vacciner, c'est-à-dire que présentement, on a des vaccins pour les 12 ans et plus. Il n'en demeure pas moins que dans les 72 écoles listées, il y a des écoles secondaires là-dedans aussi probablement.
Ah oui.
Parce que la couverture vaccinale n'est pas assez élevée dans ces écoles-là et que donc on essaye encore une fois là, de rajouter une couche de filet de sécurité pour justement pas que ça parte en grosse éclosion.
Donc, dans ces écoles secondaires, Caroline, en plus de l'opération test rapide, il faudrait mener une opération vaccination.
Bien, ce que j'en comprends, c'est qu'ils le font aussi, là, c'est-à-dire que les campagnes de vaccination scolaire sont en train de se mettre en place. Parfois, pendant l'été, tu sais, les enfants ne sont pas allés parce que peu importe la raison, mais quand on est à l'école, il y a beaucoup plus de chances à ce moment-là que les 14 ans et plus s'y rendent directement.
Très bien, Caroline. Je te laisse aller. Je sais que tu es attendue, microbiologiste, infectiologue, épidémiologiste à Sainte-Justine. Toujours un plaisir.
Merci, pareillement.
Salut. On s'en va rejoindre Olivier Drouin, fondateur de l'initiative citoyenne COVID-École-Québec.org, très présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Vous faites un suivi très serré, vous, des infections dans les écoles, des éclosions. Faites-nous un petit peu le portrait général là, de comment ça se présente depuis la rentrée scolaire. Là. Est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle ou ça va? Quelle lecture vous faites?
Mais si on compare à l'année dernière, je dirais qu'on est 2 à 3 fois plus de cas et d'écoles depuis la rentrée scolaire. On est rendu à peu près à 20% des écoles au Québec, partout au Québec, là, qui sont aux prises avec des cas de COVID. On parlait vendredi au dernier bilan de 620 écoles. On a 18% des éclosions qui sont en milieu scolaire aussi au Québec. Plus de 1000 cas, on est en 1186 cas. Je dirais que ça bouge à peu près à une centaine de cas dans les écoles par jour, puis une cinquantaine de nouvelles écoles qui se rajoutent. Donc, ça va très rapidement.
Combien de nouvelles écoles se rajoutent chaque jour?
Une cinquantaine de nouvelles écoles. Okay. Donc, une croissance de minimum 10-15% à tous les jours depuis le début. Là.
On a combien d'écoles au Québec? C'est quoi, 4000 quelques?
3000. Environ 3000. Oui, si on exclut les universités cégep, là, si on se focus sur primaire, secondaire et centre okay. de formation professionnelle.
Bon, donc, vous me dites qu'on a plus de cas qu'à pareille date l'année passée. Maintenant, évidemment,
oui,
évidemment dans les écoles secondaires, dans les écoles secondaires, chez les 12 ans et plus, puis même 12 ans, ça veut dire de certains sixième année, le plus grand nombre possible de sixième année sont vaccinés. C'est ça la grande différence.
Par contre, je nuancerais le dernier propos en disant que les 12-17 ans sont, oui, grandement vaccinés, mais pas d'une façon géographiquement bien distribuée. Donc, si on regarde, d'ailleurs, le test de projet pilote de test rapide le conclut également, là, c'est qu'il y a des quartiers de Montréal où est-ce que c'est pas 75 à 80 % des enfants au secondaire qui sont vaccinés, c'est 40. Donc, dans plusieurs quartiers de Montréal...
Un petit peu, Olivier, là. Tu as des écoles secondaires à Montréal où il y a seulement 40 % des élèves qui sont vaccinés?
Oui, mais dans Montréal-Nord, dans tous ces quartiers-là, dans Montréal-Nord, dans certains quartiers d'Anticique, en Joux, j'ai une carte très précise là, des quartiers de Montréal où est-ce que c'est en bas de 50 %.
Cette carte-là dont vous nous parlez, est-ce que c'est une carte qui est publique?
Oui, bien, c'est de l'information qui est disponible de Santé publique Montréal. J'ai pas ça à travers le Québec, mais pour Montréal, j'utilise les données de Dr. Drouin et je les mets sur une carte visuelle là, pour que les gens puissent voir dans leur quartier, c'est quoi le taux de vaccination des 12-17 en particulier.
Wow.
Parce que c'est là qu'on parle des écoles secondaires. On pense que tout va bien, mais c'est vrai, en général, au Québec, si on prend l'ensemble des 12-17, mais quand on regarde un peu plus détaillé qu'une loupe pour Montréal, il y a des fois, dans certains quartiers, un plus grand risque, et on le voit dans les éclosions. J'ai fait la carte de mes éclosions sur COVID École Québec et la carte de santé publique. Quand on croise les deux données, on voit clairement que les éclosions apparaissent là. Ils n'apparaissent pas dans l'ouest de l'île de Montréal où est-ce que ça sont à 75-80. Ils apparaissent plus au nord, plus au centre, dans le sud-ouest.
Donc, les gens qui veulent avoir cette carte-là, mettons des parents qui voudraient voir quel est le taux de vaccination de l'école secondaire de leur enfant, ils peuvent aller sur covidécolequebec.org?
Oui, ou sur mon compte Twitter, puis ça va être le taux de vaccination 12-17 du quartier et non pas de l'école en particulier.
Ah, d'accord.
De ce quartier-là.
Taux de vaccination 12-17 par quartier. Très bien, Olivier Drouin. Ben, vous faites revue utile. Je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais c'est de la bonne participation citoyenne. Merci.
Bien gentil. Merci à vous.
À la prochaine, donc, Olivier Drouin. COVID école, donc COVID au, ben, COVID. École au pluriel, donc covidécolequebec.org, ou encore il est très actif sur Twitter. OK, on s'en va. Alors, on va suivre cette opération-là parce qu'on a demandé quelqu'un de la santé publique, là, puis ils nous ont dit, ben là, vous savez, pour le moment, nous déclinons votre demande d'entrevue parce qu'on est encore en train de mettre au point les détails, etc., etc. Alors, dès qu'on aura plus de détails, on espère que la santé publique nous enverra quelqu'un. On ne demande pas mieux que de les avoir. Mais là, pour le moment, là, ils sont encore, j'imagine, à peaufiner l'opération. On s'en va à la pause au retour. Alors, l'environnement, on le sait, c'est un enjeu de plus en plus important. Et puis là, on se rend compte que, tu sais, souvent, il y a des couple de fois par année, on parle des journalistes assassinés. Hein? Bon, puis là, on présente des chiffres et tout ça. Je sais pas si vous le saviez, mais là, on est en train de plus en plus de faire une recension des militants environnementalistes assassinés. Donc, des gens qui se battent pour sauver la planète, des personnes, et puis il y en a, dans certains cas, qui payent de leur vie. Et un de ces militants, très actifs, en Amazonie, et de passage à Montréal, c'est un Québécois, il s'appelle Nicolas Mainville, il s'en vient dans l'émission après la pause.